Vous écoutez la web radio du HUF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
Dans une gare, on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien, tout ça à cause de ce foutu peuple gaulois réfractaire. Il y a des gens qui nous parlent comme ça des fois. Mais dites-vous qu'on n'est pas les seuls en France à souffrir de cet état d'esprit. Il y en a qui en souffrent beaucoup plus que nous, notamment dans des pays à la tradition dictatoriale, autoritaire, bien plus établie. Je pense à la Russie notamment, ou à l'époque de Brejnev, ou à l'époque d'Andropov, etc. On rééduquait beaucoup le peuple déviant qui ne savait pas s'intégrer au bonheur soviétique. Même si l'URSS est tombée, cette mentalité perdure toujours dans les régimes autoritaires qu'ont suivi Eltsine ou Poutine, qui est désormais installé à Moscou. Et bien donc, on rééduque, on continue à rééduquer au moyen de camps, au moyen de coups de pied au cul ou pire. Et c'est justement par rapport à ce genre de traitement dont font l'objet certains dissidents ou certaines personnes engagées que vous avez voulu intervenir, Laurent Mascle et Maria de Oliveira. Bonjour.
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 Alors, vous êtes venu sur le plateau d'Osmose pour parler d'un spectacle qui vous tient à cœur, Femmes non rééducables, pour reprendre un petit peu l'épilogue que je donnais lors du chapeau de l'émission, Femmes non rééducables, avec un exemple entre toutes, Anna Politkovskaya, la fameuse journaliste russe qui est morte assassinée en 2006. Vous représentez ça au théâtre Oboulaba à 13h45 tous les jours, jusqu'au 31 juillet, jusqu'à la fin de la semaine. Et alors, c'est un texte de Stefano Massini, un texte qui vous a beaucoup touché. Mais en préambule, je dois préciser quelque chose, et c'est Loane, la gentille régisseuse d'Osmose Radio, qui me l'a précisé parce que je n'avais même pas fait gaffe. Parmi les 1100 spectacles qu'il y a dans le programme du HUF, eh bien, il y a deux versions de ce texte « Femmes non rééducables » qui sont jouées à Avignon cet été. Une, donc celle dont on va parler aujourd'hui au théâtre Oboulaba, et une autre au théâtre L'Ambigu. Et j'étais passé complètement à côté. Et mais moi, c'est bien votre mise en scène qui m'intéresse pour une raison très simple. Vous êtes des rescapés du festival HUF 2020 et on s'était déjà rencontrés l'an dernier justement pour parler de ce, pardonnez-moi, semi-échec de la représentation que vous aviez faite à l'époque. Mais
C'était pas un échec.
Vous n'aviez pas pu jouer au festival HUF, mais du coup, vous aviez réussi tout de même à jouer tout court et c'était déjà une belle réussite en soi.
Oui, c'est pour ça, c'était un bon challenge.
justement, c'était à cette occasion que vous étiez venu nous rejoindre sur le plateau d'Osmose. Alors d'aucuns vont dire, ouais, Osmose Radio, c'est du copinage, tout ça. Même pas vrai, c'est juste que le hasard s'est fait comme ça. Et tu disais, vous êtes des rescapés du festival HUF 2020, donc évidemment, vous avez souffert de l'annulation du festival comme tout le monde l'an dernier. Mais vous aviez réussi, début août tout de même, dans la première quinzaine d'août, à faire quelques représentations de ce texte. Et par conséquent, c'est pas une nouveauté pour une création pour le festival 2021. On peut même dire d'ailleurs que c'est une création qui s'est faite par conférence vidéo interposée entre vous lors du premier confinement dû au Covid au printemps 2020. C'est bien ça ?
C'est bien ça, absolument. On a, comme tous les artistes et tout le monde en général, de toute façon, au moment du confinement dur, été privés de travail, etc. Et avec Laurent, ne vivons pas dans la même ville, et de toute façon, étant confinés, on travaillait sur un projet en particulier. Et Laurent m'a soumis, parmi d'autres lectures, ce texte de Stefano Massini, « Femmes non rééducables ». Et ça a été un coup de cœur absolu. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'aventure « Femmes non rééducables ».
Donc le Covid aura eu au moins un effet positif, hein ?
Ah oui, il n'y a pas que du négatif. Et vous parliez de 2020, quand on l'a joué, nous avions fait une lecture théâtralisée l'année dernière, au mois d'août 2020.
D'accord, parce que j'allais y venir tout à l'heure. Comment aura évolué le projet depuis ? Alors tout ça, cette création, c'est dans le contexte au bon soin de la compagnie Lille Loma, qui est basée à Brest. Mais ce n'est pas la première fois que vous venez à Avignon, quand bien même l'année dernière, ça aurait été compliqué. Alors vous-même, Laurent Mascle, vous êtes metteur en scène de cette création. Et comme vous le disiez à l'instant, l'an dernier, c'était plutôt une lecture théâtralisée. Là, vous avez des parties prises de mise en scène assez différentes.
Oui, donc l'année dernière, quand on a proposé cette lecture, c'était une proposition et pour nous un test pour voir, c'était un peu la genèse du projet et voir comment ça pouvait répondre et nous, comment on pouvait déjà aborder un peu le plateau avec ce texte-là. Et en fait, le texte est tellement fort, les images sont tellement fortes que c'est très épuré. Il y a deux personnages, Marie, qui interprète le rôle de Anna et moi qui fais tout, tous les méchants quoi. donc un soldat, un jeune soldat russe qui s'est engagé en Tchétchénie, un colonel avec une rencontre dans un char, voilà, de la narration, voilà, je fais tout ce qu'il y a autour.
Excusez-moi, c'est oui. Pendant la première guerre de Tchétchénie, c'est pas les conscrits qu'on envoyait ? Là, vous parlez d'engagement.
Alors oui, parce qu'en fait, il demandait à ce que les gens s'engagent
par patriotisme, voilà.
Oui, c'est ça. Et puis bon, ils envoyaient surtout des orphelins parce que ben, les mères elles voulaient pas que les enfants partent à la guerre, donc ils ont pris des orphelins comme ça, personne râlait quoi.
Il faut dire qu'il y avait eu le précédent de l'Afghanistan déjà hein, pour les Russes. Et d'ailleurs là, on est en train d'entrer dans le vif du sujet, de ce sujet brûlant de l'histoire récente, sinon de l'actualité. Et j'ai oublié de poser les préalables. Alors déjà, qui était cette Anna Politkovskaya, une journaliste russe dont le nom sera peut-être encore dans quelques mémoires, bien que comme elle ait été assassinée il y a 15 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle a été assassinée le 7 janvier, c'est bien ça ?
7 octobre,
pardon.
2006, oui.
Qui est aussi le jour anniversaire de Poutine.
Voilà. Elle a été assassinée, elle rentrait de faire ses courses. Voilà, elle montait ses cabas et puis on l'a assassinée dans l'ascenseur de son immeuble. Voilà.
Et c'était une journaliste d'origine ukrainienne qui avait le courage de faire ce qu'on appelle d'être reporter de guerre et d'aller sur le terrain pour interviewer des conscrits, des généraux et parfois même l'ennemi hein, si elle arrivait à le rencontrer, bien entendu. Alors tout ça, évidemment, ça donne un point de vue sur la guerre qui est déjà assez... qui rappelle un petit peu ce que les Américains ont connu avec la guerre du Vietnam, c'est-à-dire des journalistes assez indépendants qui interrogent toutes les parties et qui font des synthèses qui ne vont pas forcément dans le sens de la propagande gouvernementale. Les Américains ont réussi et les Français aussi d'ailleurs, ont réussi à pallier ça à ça avec les journalistes embarqués où on contrôle le point de vue des reporters. Mais pour le coup, Anna Politkovskaya avait le courage d'échapper à ça et sans doute aussi la volonté donc dans la Russie telle qu'elle a été dirigée par Eltsine, puis quelques années plus tard par Poutine. Et justement, c'est à ce courage-là que rend hommage Stefano Massini dans son œuvre dont vous avez rappelé tout à l'heure, qui utilise beaucoup de métaphores poétiques pour faire allusion aux horreurs de la guerre que décrit Anna.
C'est ça qui est impressionnant avec ce texte, c'est que par la poésie de Massini, il arrive à dire des horreurs dans de la poésie. C'est assez c'est beau et troublant à la fois. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne.
Oui, mais ça reste également, dans cette grande poésie, un texte factuel.
Oui.
C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une réalité, celle d'Anna à l'époque, celle des Russes et des Tchétchènes à l'époque.
C'est pas idéologique, là, si on
non,
parle de faits.
Non, ce sont vraiment les faits. On est dans la prise, dans le théâtre Dubrovka à Moscou avec les terroristes et Anna, parce que les terroristes tchétchènes ont fait appel à Anna Politkovskaya pour venir témoigner de ce qui se passait à l'intérieur, de par leur connaissance de cette femme intègre qui ne disait que la vérité. Donc ils ont souhaité.
Quitte à leur tenir tête, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Et en fait, le texte, dans sa poésie, son écriture magnifique, est absolument véridique, factuel, des événements qu'elle a couverts, de ce qu'elle a vu, un attentat en direct, une interview avec un colonel russe en place en Tchétchénie dans un char, notamment cette prise d'otage donc, à Moscou, l'école à Beslan, prise en étau entre les Russes et les Tchétchènes. Mmh. Il en découle effectivement cette écriture sublime, mais de fait. Comme elle, il y a justement un des textes qui reprend cette thématique où elle dit qu'elle ne fait, elle se limite à raconter des faits tels qu'ils sont, tels qu'ils se produisent.
Et elle ne prend pas parti.
Par contre, évidemment, elle a des fortes émotions quand justement à Beslan, elle voit tous les noms des enfants qui ont été assassinés. C'est une femme, un être humain avant tout, bien sûr. Mais absolument intègre. Et c'est bien pour ça qu'on l'a
pas
rééduquée.
Et elle avait déjà des enfants quand elle est partie sur le terrain.
Oui.
Oui.
Sur le champ
deux
de bataille.
Enfants.
Oui, oui.
Et donc, voilà, elle ne prend pas parti. Donc, elle relate des faits. Et quelle que soit la partie adverse ou enfin tout à l'heure je parle de méchant, mais voilà, elle va pas dire oh mais les Tchétchènes ils vont prendre en otage les spectateurs de la Dubrovka, elle va pas les incriminer, elle rapporte des faits quoi.
Et rappelons que c'est vrai que tout ça nous ramène à une actualité qui est déjà lointaine, parce que dans les années 2000, on avait, vous autres en France, vécu tout ça de loin. Mais c'est vrai que vous faites allusion ne serait-ce qu'à ces deux événements-là, la prise d'otages des enfants à l'école de Beslan, qui est une ville en Tchétchénie, donc, et le théâtre du Dubrovka à Moscou, où les terroristes tchétchènes avaient pris en otage le public. Et donc, les Spetsnaz avaient donné l'assaut, les forces spéciales russes, et ça avait été un massacre. Et puis, il y a bien d'autres événements encore dont on peut entendre parler lors de ce spectacle. Et là, je vous sens assez touché par le personnage de la femme Anna Politkovskaya, tous les deux. Donc, vous, Maria, vous l'interprétez. Et vous, Laurent, vous mettez le texte en scène. Mais finalement, des deux, du texte ou de la personnalité de la journaliste, lequel vous a le plus touché, finalement? Ou lequel vous a touché en premier?
Ben, le premier, ça a été le texte. Et après, forcément...
Oui, mais ce Stefano Massini a écrit sans doute bien d'autres textes. Pourquoi celui-ci en particulier, vous avez choisi?
Ça fait partie de ma...
Ah, c'est une question piège, hein?
Oui,
d'où votre désarroi?
Non, parce que en fait, j'ai dans ma bibliothèque plusieurs livres. Et j'en ai... J'ai une pile dans laquelle j'entasse les textes qui me touchent. Parce que quand on monte un spectacle, quand on veut mettre en scène un texte, il faut que ce soit charnel. Et ça, de suite, ça m'a happé. On ne comprend pas pourquoi. Tous les textes qu'on monte, pour moi, c'est comme ça. Hein, je ne sais pas pour toi, Marie, mais il faut que ce soit charnel, qu'un truc intérieur qui se passe. Et celui-là, de suite, ça m'a touché de voir le courage de cette femme. Et moi, ça m'a donné envie de parler d'elle, de le crier sur tous les toits, de cette femme courageuse qui ne prenait pas parti, mais qui rapportait ces faits-là, cruels. Elle m'épate, vu comment elle a fini, c'est pas normal, quoi. On élimine des gens comme ça, de cette qualité-là. Donc, au départ, oui, c'est passé par le texte. Et après, on approfondit, on va chercher des reportages télé sur Politkovskaya, ses interviews. Il y a un film qui a été tourné aussi sur elle, sur sa vie. Et du coup, l'image qu'on en a se développe et devient énorme. Et on se dit, il faut qu'on transmette cette parole, quoi.
Oui, c'est vraiment un ensemble, c'est-à-dire que la puissance du texte de Stefano Massini est à la hauteur de la puissance de cette femme-là.
Oui.
Et c'est ce qu'on a vraiment ressenti. Moi, ce texte m'a bouleversée, je connaissais Anna Politkovskaya de par l'histoire.
Oui.
Mais ce texte, c'est pas comme si on avait nous pris des articles et puis voulant lui rendre hommage comme ça, c'est vraiment... on adorerait rencontrer Stefano Massini par rapport à comment il a réussi à retranscrire ces faits-là avec cette telle puissance et poésie, encore une fois. Mais c'est aussi et avant tout cette femme-là, Anna Politkovskaya, c'est vraiment... Nous, quand on est sur scène, chaque jour, moi je dis ces mots, j'essaie de l'incarner, d'être au plus proche par rapport aux recherches que j'ai pu faire, qu'on a fait, les reportages, etc. Et c'est tous les jours se dire, mais c'est dingue. Moi, je dis ça, là. Je suis comédienne, j'y mets tout mon cœur, toutes mes tripes. Mais elle l'a fait.
Elle est admirable.
Elle l'a vraiment dit, elle a vraiment fait. Elle aurait pu partir s'exiler, prendre ses deux enfants sous le bras et partir en Europe, on l'aurait accueillie. Non, elle est allée jusqu'au bout. Et ça, c'est bouleversant. Et chaque jour, encore plus. Et d'avoir l'honneur de pouvoir l'incarner, c'est énorme. Et parfois, on dit au public, justement, et c'est très sincère, qu'au-delà d'avoir envie en tant qu'artiste, metteur en scène, comédienne, comédien, du public dans la salle, ça nous dépasse. C'est que cette parole soit entendue, propagée, que ce nom d'Anna Politkovskaya reste dans les mémoires, soit révélé aux plus jeunes, et qu'on se rende compte de ce qu'elle a vécu et de ce qui est encore d'actualité aujourd'hui. avec un journaliste emprisonné à ce jour en Russie.
Avec Ramzan Kadyrov qui est à la tête de la Tchétchénie encore, voilà.
Exactement. Mmh. Donc c'est voilà.
Elle a défendu les droits de l'homme. Enfin, elle s'est battue pour toutes ces idées. Et nous, on est des passeurs, on est des intermédiaires pour que ce courage et cette femme ne soient pas oubliés. Elle est morte en 2006, ça fait 15 ans. Les gens s'en rappellent encore. Ou s'ils ne se rappellent pas d'elle, on se rappelle, pour certains, des images de la Dubrovka qui faisait la une des journaux à 20h. On voyait ces... je me rappelle, c'est très net dans ma mémoire, de voir ce théâtre-là avec les soldats russes autour. Et puis l'assaut qui avait été donné 4 jours après, où ils sont rentrés en force. Ils ont mis du gaz pour endormir le public. Ils étaient 800 dedans et ils sont rentrés, passez-moi l'expression, mais comme des bourrins, quoi, pour... Enfin, je sais pas si vous
en parlez. À la hussarde, mais voilà.
Voilà, c'est ça. Et donc, de combattre ce char russe, c'est un courage extrême et de personnes admirables, quoi. Enfin, moi, c'est de l'admiration que j'ai pour...
Il y a quelques personnages historiques et encore contemporains qui forcent le respect. Et du coup, c'est vrai que par rapport au travail de mise en scène, eh bien, c'est une femme qui n'était pas une journaliste de cours, elle n'était pas du genre à faire des courbettes. Et du coup, vous l'incarnez totalement debout. Et autre astuce, vous regardez le public, chose qui n'est pas forcément commune au théâtre. C'est-à-dire que vous impliquez en quelque sorte les spectateurs.
Oui.
Tout à fait. C'est du frontal. Donc, jamais on se regarde. On est face publique et on ne bouge pas face publique.
Vous deux, les deux acteurs, vous ne vous regardez jamais.
Jamais.
Donc, on a des dialogues. Mm-hmm. On ne se regarde jamais. On est tout le temps face publique. Donc, c'est un parti pris. Hein, mais justement, pour impliquer le public comme s'il était...
Et prendre à témoin de ça. Et il assiste justement de façon frontale aux différentes confrontations, aux différents textes. Et donc, il n'y a plus de quatrième mur. On est vraiment dans cette passation de parole directe.
Les spectateurs ne sont pas témoins donc d'une scène, mais effectivement, ils sont...
C'est pour les impliquer.
Ils sont pas simplement spectateurs d'une scène imaginaire, ils sont témoins d'une scène véridique, en quelque sorte.
Et l'impact est beaucoup plus fort comme ça, parce qu'on est en face de lui, et il prend ça comme s'il était donc soit à la place d'un Tchétchène, d'un terroriste, d'un militaire russe, ou à la place d'Anna, face à un militaire russe, quoi. Donc il se prend ça directement. L'impact serait beaucoup plus minimiser si on était face à face, Marie et moi, dans les dialogues. Et donc, on a travaillé sur les regards, sur les intentions, les silences.
Vous dites aspect minimisé, oui et non, parce que vous auriez pu utiliser des images d'archives, et elles ne manquent pas pour les guerres de Tchétchénie.
Tout est dans le texte, oui, voilà. On ne veut pas en rajouter.
Et justement, je viens au texte, qui en soi, comment dirais-je, le spectacle n'est pas recommandé aux gens avant 14 ans, pour différentes raisons. Mais à 14 ans, on commence peut-être à être plus sensible à ce genre de personnage et aux thèses politiques qu'il permet d'appréhender. Mais en même temps, peut-être que pour un spectateur, des spectateurs plus jeunes, c'est aussi très difficile d'encaisser les choses absolument dégueulasses que raconte Anna Politkovskaya par rapport aux scènes très dures dont elle a été témoin et qu'elle a rapportées. Et par conséquent, Stefano Massini l'aborde avec une certaine un biais poétique, mais ça reste quand même parfois assez dur à encaisser et du coup, le spectacle ne conviendra pas à tous les publics. Précisons-le tout de même.
Ce sont des faits de guerre et la guerre n'est pas propre. La guerre est sale.
Ça, c'est ce que vous dites, la propagande poutinienne ne dira pas ça.
Pardon ? Absolument, oui, bien sûr.
C'est ce que vous dites, vous, mais la propagande ne dirait pas tout à fait ça.
Oui. Bon, c'est mon point de vue.
Il est largement partagé, mais je devais quand même prendre le contre-pied. Et donc, pour donner cette ambiance par rapport à ces astuces de mise en scène, par rapport à la puissance du texte lui-même, vous faites appel à un comparse, Gilles Montfort, qui a créé une ambiance musicale.
C'est un musicien extraordinaire. Il a su répondre à la note près, à l'ambiance qu'on voulait donner. Soit appuyer l'angoisse de la scène avec Anna face à ses militaires ou de la légèreté. Enfin, c'est la musique est très présente et à la fois subtile pour amener le spectateur dans cet univers-là. Et Gilles a une oreille extraordinaire. Il arrive à construire cet univers-là avec des sons qu'il va chercher à droite à gauche. Un petit grillon qui peut paraître anodin, mais un petit grillon du Guatemala. Une petite brise sur le Luberon. Oui.
Justement des chants tchétchènes vraiment recueillis
oui,
sur place.
Oui.
C'est,
il y a des chants tchétchènes. Puis il y a aussi, quand on parle de la Dubrovka, il y a un extrait de ce spectacle-là.
Voilà, c'est très pointu, son travail extrêmement pointu.
Et presque documentaire à certains aspects, ouais.
Et l'ambiance chaque, musicale, c'est
Il y a une histoire entière sur chaque morceau, quoi. Mm. Parce que quand...
Alors, on n'a pas le temps de raconter l'histoire entière sur chaque morceau, pardonnez-moi. Mais toujours est-il que, moi, un jour, j'avais lu quelque chose, une définition du journalisme qui, à mon sens, est très forte. C'était Jean-Christophe Victor, je crois, qui dit... pas journaliste lui-même pourtant, qui disait « Je suis objectif, mais je ne suis pas neutre ». Et je pense qu'on pourrait appliquer ça à Anna Politkovskaya. C'était un être humain, elle était maman, elle n'était pas neutre par rapport à ce qu'elle voyait, et pourtant elle restait d'un point de vue presque glacial, clinique, et très objective sur les faits dont elle était témoin et qu'elle avait rapporté au grand déplaisir des autorités qui avaient engagé cette guerre. Et du coup, elle a payé au prix fort, au prix de sa vie, comme d'autres gens de son calibre, qui l'ont fait bien avant elle et le feront hélas après. Vous le rapportez tout ça dans ce spectacle, femme non rééducable, on peut rien en faire, donc vaut mieux se débarrasser, hein, c'est ce que ça sous-entend. Cas d'Anna Politkovskaya, c'est à 13h45 au théâtre Oubulaba jusqu'au 31 juillet. Voilà, merci Laurent Masle et merci Maria de Oliveira. Rien à voir avec le cinéaste. Hein.
Non, rien, et puis c'est Marie.
Marie ? Excusez-moi, j'ai confondu avec Maria de Medeiros, une autre...
Ah, mais ça me va aussi.
Voilà, bon, une jolie comparaison. Mais en tout cas, dans ce spectacle, Femmes non rééducables, théâtre au bout, là-bas, à 13h45. Et pour nous quitter, on va écouter quelques notes de musique, un chant de soldat qui a été écrit justement pendant la Deuxième Guerre de Tchétchénie, Le garçon aux cheveux gris.
Приходил, просил, чтобы его снова взяли в строй. В недоумении были все, никто не мог понять зачем. И лишь старик-полкан спросил его. Чечня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой, и что тебе покоя не дает? Седой парнишка постоял и взгляд свой в сторону убрал, чтоб слезы свои скрыть, чтоб слезы скрыть. В военкомате тишина, как приговор звучат слова, которые не в силах повторить. Я видел смерть, я видел боль, домой вернулся я живой, а там меня уже никто не ждет. Любимая моя с другим, и в этом мире я один, а там мои друзья штурмуют зон. Я вижу страх и ад, и слышу звуки канонад, но там мои друзья всегда со мной. Они поддержат и спасут, и руку дружбы подадут, ну а убьют, так тело принесут. Чечня в огне, второй Афган, куда же рвешься ты, пацан? И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный.